Ce soir, sur Campus Grenoble.
90.8.
Nous ferons ce qui est interdit.
Nous irons ensemble à la buvette.
C'est l'apéro.
Phonie.
L'exception radiophonique.
L'apérophonie.
De la culture.
Et de la musique.
Au shaker et à la cuillère.
Campus Grenoble 90.8.
Quoi de mieux pour l'apérophonie que de parler de bière, mais pas n'importe quelle bière, puisque nous parlons aujourd'hui de bière artisanale et locale. Je m'appelle Thomas, c'est ma première émission sur Radio Campus 90.8. Je suis amateur au niveau brassage, mais expert en le fait de boire des bières avec mes amis. Et je suis très heureux d'accueillir deux brasseries artisanales et locales de Grenoble aujourd'hui, la brasserie Irvois et la brasserie Maltobar. Donc je vais laisser nos interlocuteurs présents se présenter rapidement. Est-ce qu'on peut commencer, s'il vous plaît, par la brasserie Irvois peut-être ? Est-ce que Suzy, tu peux commencer à prendre la parole pour me dire un peu qui vous êtes et vous présenter succinctement ?
Bonjour. Du coup, nous, on est la brasserie Irvois. On est deux à avoir monté ça, enfin quatre sur les papiers quand même. Deux à travailler réellement à plein temps. Donc moi, Suzy, et puis...
Et moi, Sergio.
Voilà. Ben, merci beaucoup. On est très heureux de pouvoir vous accueillir tous les deux ici. On passe maintenant à la brasserie Maltobar. On accueille donc du coup Benoît et Quentin. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement également ?
Ben, bonjour, du coup, Quentin de la brasserie Maltobar. Voilà, brasserie en centre-ville de Grenoble depuis
2016, premier brassin, 2015, création de la boîte.
Voilà.
D'accord.
Et du coup, bonjour à tous, Benoît.
Donc on est super content de vous accueillir tous les quatre ici dans les locaux de Radio Campus. J'en profite pour dire merci à également l'entreprise Dauphy Bière qui fait la distribution de bière, qui nous a mis en relation. Donc on passe un coucou à Jérémy et Tristan qui sont nos amis et qui ont pu faire que cette émission est possible aujourd'hui. Donc, pour commencer, je vous propose d'écouter un petit message que Radio Campus Grenoble doit nous passer et qui est obligatoire pour pouvoir commencer cette émission.
Épicure.
Le groupe épique.
De prévention contre l'alcool.
L'alcool, c'est dangereux pour la santé.
Buvez avec modération et en quantité réduite.
Préservez votre santé.
Grâce à Épicure, le groupe épique
de prévention
contre l'alcool.
Merci beaucoup à l'équipe de Radio Campus Grenoble 90.8 pour ce petit jingle très sympa pour nous alerter sur les dangerosités de l'alcool. Mais aujourd'hui, on est aussi là pour passer des bons moments et de parler des aspects positifs de la bière artisanale.
C'était les piqûres de rappel, quoi.
Exactement, tu as tout compris. Donc on va commencer tranquillement à se mettre en jambes et parler surtout de le produit, la bière et la technique, comment on fait, puisqu'il y a sûrement nos auditeurs et nos auditrices qui nous écoutent, qui ne savent pas, qui en boivent, même si c'est le breuvage le plus populaire de nos apéros, et ben, on sait rarement comment est fabriquée cette boisson. Donc est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer quelles sont les différentes étapes pour fabriquer de la bière, une bière classique ?
Alors... Je ne connais pas trop les termes en français, c'est pour ça que j'ai hésité, on peut en parler. Mais en gros, le brassage, la base de la bière, c'est le malt. Y a des gens qui pensent que c'est l'eau blanc. En fait, l'eau blanc, c'est juste une épice, on va dire, pour épicer, entre guillemets, la bière. On ne peut pas faire la bière sans malt, mais on peut faire la bière sans eau blanc. Donc en gros, le malt, ça veut dire malt, on peut avoir du malt de plusieurs céréales. Notamment on utilise surtout du malt d'orge, mais on peut utiliser aussi du malt de blé, de seigle, etc. Et en fait, le malt, ça veut dire que la céréale, elle a été germée et séchée. Et donc, pendant la germination, on va activer des enzymes dans la graine, dans la céréale, qui vont ensuite être utilisées pendant le brassage pour casser l'amidon de la bière en sucre. Et c'est ces sucres-là qui vont être fermentés, transformés en alcool par les levures. En gros, résumé, si on peut ça, quoi. Après, le houblon, il sert pendant l'ébullition. On va avoir un jus, on va dire, un liquide, un mou sucré du malt. Et là, on va rajouter le houblon qui va donner surtout l'amertume et quelques saveurs, quelques arômes. En plus de ça, on peut rajouter aussi le houblon pendant ou après la fermentation. C'est ce qu'on appelle le houblonnage accru ou dry hopping. Et voilà, en gros, j'ai oublié peut-être la fermentation. Oui, après l'ébullition, on va refroidir ce mou-là et on va rajouter les levures qui vont fermenter la bière et transformer, fermenter le mou et le transformer en bière. Voilà.
D'accord, donc on peut vraiment dire que c'est une boisson vivante, hein, puisqu'il y a plein de choses qui se passent dans cette période de fermentation. Merci Sergio, du coup, pour avoir expliqué ça. Moi, j'ai noté aussi qu'il y avait un ingrédient très important qui est l'eau, simplement. Donc, comme on pourrait on pourrait pas le penser parce qu'on pense tout de suite bière, alcool, mais il y a effectivement beaucoup d'eau aussi dans le processus de fabrication. Et je sais que l'eau, dans une région montagnarde, c'est un aspect particulier qui, des fois, est mis en avant dans les bières qui sont proposées dans la région. Est-ce que vous, par exemple, c'est un élément que vous mettez en avant et vous utilisez une eau particulière, en tout cas l'eau de Grenoble, qui donne un goût particulier à la bière? Je ne sais pas, Sergio, si tu veux nous dire un petit mot là-dessus.
Oui, on utilise l'eau de Grenoble. Elle a surtout l'avantage de ne pas être très traitée. Et en effet, on mettait en avant, je ne sais plus si on fait encore, mais on mettait en avant le fait d'utiliser l'eau de Grenoble sur nos étiquettes. Et surtout dû à sa pureté, c'est l'eau de source en vrai, l'eau de Grenoble. Donc il n'y a pas de chlore, il n'y a pas d'autres types de traitements. Voilà. Et c'est vrai que la bière, c'est presque 95% d'eau, ça dépend de la bière. Donc en effet, l'eau, c'est très important et on a la chance à Grenoble d'avoir une eau pure. Naturellement pur.
Eh ben, tant mieux pour nous et tant mieux pour tous les brasseurs qui peuvent utiliser cette eau-là. C'est vrai que du coup, même si la base que tu as expliqué, Sergio, est relativement simple pour faire de la bière, il y a plein de recettes différentes. Et du coup, moi, j'aimerais savoir un peu, quand vous voulez créer une nouvelle bière, c'est quoi un peu votre idée, votre intention quand vous voulez? Est-ce que vous visez à faire une bière particulière que vous connaissez déjà, ou alors l'idée, c'est de justement tester des choses pour essayer de vous surprendre vous-même? Est-ce que, par exemple, Maltobar, vous pouvez nous expliquer un petit peu quelles sont votre intention quand vous voulez créer une nouvelle bière?
Quand on veut créer une nouvelle bière, en général, c'est qu'on trouve qu'il y a quelque chose qui manque dans la gamme, ou qu'on a une envie particulière à cause de la saison ou des choses comme ça, plutôt les brunes en hiver, plutôt les bières fruitées en été. La plupart du temps, on sait ce qu'on veut faire, on y réfléchit avant. Donc après, est-ce qu'on veut quelque chose de plutôt amer, pas trop amer, avec le degré d'alcool, est-ce qu'on met un fruit? Donc on réfléchit à l'avance à ce qu'on veut faire. Après, on se lance. C'est arrivé qu'on fasse des tests en petite quantité, notamment pour la bière à la chartreuse, pour un peu évaluer la quantité de chartreuse qui était tolérable de mettre dans la bière, voilà, pour que ça se sente, mais pas trop. Mais ça arrive aussi la plupart du temps qu'on veut faire une Imperial Stout, on concocte une recette sur papier, on concasse, on met le grain et puis on se lance et on voit un mois plus tard ce que ça donnait. Mais ça reste quand même une science à peu près exacte, entre guillemets. On peut savoir à l'avance vers quoi on se dirige.
D'accord.
En termes de degré d'alcool, de couleur, voilà, il y a toujours des surprises, hein, une fermentation qui a un peu débordé, des choses, voilà. Mais sinon, ça reste assez précis.
D'accord. Alors, c'est pareil, peut-être pour Yervois. Je ne sais pas, Suzy, si tu veux nous donner un petit mot sur vous, votre processus, pour créer une nouvelle recette. Est-ce que c'est un peu le même processus que pour Maltobar, ou est-ce qu'il y a vraiment une approche différente? Comment ça se passe de votre côté?
Oui, nous, c'est pareil, ça part un peu de nos envies et de ce qu'on aurait, ce qui manquerait un peu dans la gamme. Après, on n'a pas tant que ça on fait des nouveautés, on va dire une ou deux fois par an. Je pense qu'on en fait moins que Maltobar. Et après, je pense que quand on sort des nouveautés, c'est évidemment avec nos envies aussi, mais pas mal par rapport au retour des clients qu'on a, qu'on voit un peu ce qu'ils aiment vraiment. Est-ce que celle-là sera peut-être plus consommée ou, voilà. On essaye de faire un peu les deux, de voir à peu près ce que les gens veulent boire, quoi. Voilà.
Bah ouais. Non, c'est super. C'est vrai que moi, depuis que j'ai découvert un peu toute la myriade de bières qui existaient dans la région, j'étais vraiment surpris par les différents goûts qui existaient et puis toute l'offre qu'il peut y avoir là-dessus. C'est hyper intéressant. D'ailleurs, j'imagine que quand vous avez des retours par rapport à vos bières, on met souvent l'accent peut-être sur les bières les plus originales. Est-ce que, par exemple, côté Maltobar, je ne sais pas, Benoît, est-ce que c'est quoi vos bières qui... vous avez le plus de retours positifs? Est-ce que c'est justement les plus originales, les plus caractérielles, j'allais dire, ou est-ce que à l'inverse, c'est des fois les bières qui sont les plus faciles à boire?
Alors, réponse un peu plus... on va dire, dans la bière, tout est paradoxal et complexe quand même. C'est, par exemple, nous, on a une gamme, on va dire, fixe et une gamme éphémère.
Okay.
Et parfois, dans la fixe, les gens sont contents de pouvoir revenir vers un produit qu'ils connaissent et ils savent en fait que c'est une valeur sûre. S'ils y reviennent, c'est quoi là, ils savent à quoi s'attendre. Et après, ils aiment bien tester des nouvelles choses. Alors du coup, nous, on avait une gamme éphémère qui maintenant tend à être de plus en plus permanente parce que justement, certaines éphémères, les gens ont envie de l'avoir de nouveau. Je parle par exemple de la lacrymale au poivre ou de celle à la chartreuse. Celle à la chartreuse, à la base, on l'avait faite. C'est les bières un peu, les gens appellent ça les bières transformées, les bières, vous avez mis du sirop dedans et tout, alors que non, c'est de la chartreuse. Mais au final, en fait, ils goûtent, ils s'aperçoivent que c'est pas sucré tout ça, et en fait, ça revient. Et nous, derrière, vu qu'il y a une demande, on en produit un peu plus. Et du coup, ça finit par limiter le nombre de bières qu'on fait éphémères, les envies et tout ça. À un moment, il faut quand même qu'on en vive, donc il faut rebrasser les bières qui se vendent. Et du coup, la part d'éphémères diminue. Mais après, les gens, non, au final, une fois qu'ils ont fait confiance, je pense, plus à une brasserie, ils reviennent et ils testent nettement plus facilement les nouvelles bières qui ont été faites. Et ils rentrent un petit peu dans notre jeu, quoi, ou dans le jeu de la brasserie, en disant qu'ils sont plus dans un côté, on va dire, classique, mais valeur sûre, bien carré, tout ça, paf, on y va parce qu'on sait qu'il y a ça. Eux, ils sont un peu plus frivoles, on va tester, tant on ne va pas aimer, mais franchement, ça vaut le coup et ça... Et voilà, je pense que c'est comme ça que ça fonctionne et c'est du ressenti et de... Faut pas se mentir à soi-même, quoi.
Ah bah oui, j'imagine bien. C'est vrai que y a vraiment beaucoup de choses très différentes. C'est vrai que là, on parle beaucoup de la bière en elle-même et puis du contenant de la bouteille, mais il y a aussi tout un aspect qu'on n'a pas forcément abordé, qui est aussi, je pense, très important, qui est au final le packaging. J'ai remarqué que la plupart des bières artisanales travaillaient beaucoup leur aspect esthétique dans les bouteilles pour pouvoir aussi se différencier de ce qui peut se faire de manière plus industrielle. Par exemple, Irvois, vous avez choisi de vous baser sur la rue Irvois où vous étiez à l'origine, je crois, avec la fameuse église Saint-Jean rue Irvois, qui a quand même une architecture particulière. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quelle a été la logique dans cette identité graphique, on va dire ?
Alors, pas du tout.
Ah, ok, c'est une erreur de ma part alors.
Non, je rigole. En fait, on habitait rue Irvois, effectivement, au 7e étage d'un immeuble quand on a démarré, donc avant 2015, avant de monter la société. Et quand on a démarré par faire des bières dans la baignoire, comme tout petit brasseur qui se respecte. Et effectivement, on avait ce bâtiment un peu ovniesque juste devant chez nous. Et voilà, on l'a un peu transformé. Et voilà. Ça, du coup, c'est plus vraiment ce bâtiment-là, quoi.
D'accord.
Je sais pas comment faire la pirouette, mais... Et oui, du coup, on a repris ce bâtiment, et puis c'est devenu une petite charte graphique, et voilà, c'est parti de là.
D'accord. Est-ce qu'on peut parler aussi, je pense, de Maltobar, parce qu'il y a quand même, on va dire... Un gros aspect humour et rigolade de votre côté, puisqu'il y a les noms de bières sont toujours... très recherché. Avec moi, j'ai noté notamment la Mère Noël, l'échec et Malte ou la Facebook. Il y a vraiment une envie de jouer avec les mots pour peut-être rapprocher le côté un peu convivial de la bière, pour que ce soit quand même une bière de copains à partager avec d'autres amis en soirée. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer cette approche, l'idée de faire des jeux de mots avec vos noms de bière?
Alors, on faisait des jeux de mots beaucoup déjà avant de brasser de la bière. ça a un peu fait partie du cahier des charges de notre gamme, quoi. C'est-à-dire que c'était pas de bière sans jeu de mots, pas de jeu de mots sans bière. Du coup, on a des jeux de mots qui attendent leur bière, des bières qui attendent leur jeu de mots. Et, toujours un petit nom rigolo, un petit slogan. Il y a des jeux de mots qui ont fait naître des bières.
Et, clairement.
Mais c'est-à-dire que le nom de la bière, le jeu de mots qui était à l'origine, était là avant même que la bière soit créée, c'est ça?
La bière de Noël, okay. Enfin nos deux bières de Noël. En fait, on était deux brasseurs, on avait envie de faire des recettes. Et du coup, on s'est dit, on pourrait faire un truc, attends. Puis Quentin, il fait, attends, j'ai une idée, il a fait un petit dessin. Et il a dit, on pourrait faire deux bières, comme ça les deux font la paire Noël. Mmh. Voilà, et il a fait un dessin de manière à ce que les deux ensemble représentent un tout. Mais ouais, sur les étiquettes, il y a quand même pas mal d'évolutions. À la base, justement, vu qu'on était sur les jeux de mots, il n'y avait pas d'unité. Ouais. Et c'était des jolies étiquettes. Chaque fois, c'est Quentin, du coup, qui s'en occupe au niveau du design, si c'est le mot qu'il faut employer. Ça partait dans tous les sens. Et les gens étaient un peu perdus, notamment le nom de la Mère Noël, qui est une bière qui est constante toute l'année, qui n'est pas une bière Noël, il n'y a pas d'épices ni rien, mais c'est juste parce qu'elle était amère. Et dessus, on voulait mettre du sucre d'orge, des mères d'un couvent. Enfin, il y avait tout un projet derrière tout ça. Le nom, on l'a gardé parce que nous, on l'a aimé. Mais il ne fait pas écho dans l'oreille des gens. Ils font « Ah non, c'est une bière de Noël !» Non, pas du tout. Et à chaque fois, on est obligé de l'expliquer, alors qu'il suffirait simplement de changer de nom pour être plus clair et plus lisible. Mais non, on ne le fera pas.
D'accord.
À la place, on a créé la Père Noël. Comme voilà. Ça, on a la Mère Noël et la Père Noël.
Comme ça, on perd les gens aussi. Et du coup, Quentin, après, a bossé pour faire une unité. Et maintenant, on a des nouvelles étiquettes qui sont un peu plus standardisées.
Il y a un effet de gamme, quoi, voilà. Quand on a les...
Merci. Voilà.
Mais c'est vrai que c'est important aussi que des fois les consommateurs puissent visualiser que c'est bien de la bière artisanale et que ça doit être un petit peu moins uniformisé que des bières industrielles. Donc effectivement, c'est toujours un travail sur la charte graphique d'avoir quelque chose qui ressemble à de la bière artisanale. Même, j'allais dire, peut-être qu'on peut s'approcher aussi du transport ou du stockage de ces bières-là, parce que je sais que, étant consommateur de ces bières-là et grâce à Jérémy de Fibière qui m'a expliqué plusieurs choses, je sais qu'il y a des manières un peu de stocker ces bières chez soi ou de les consommer. Est-ce que, Suzy et Sergio, vous pouvez nous en parler un peu? Est-ce qu'il y a des manières de, même pour vous quand vous la fabriquez, mais aussi quand on en achète une bouteille quelque part, est-ce qu'il faut faire attention à des petites choses qui sont peut-être moins le cas pour des bières industrielles?
En vrai, une bière... Enfin, les bières artisanales dont on parle, elles sont pas filtrées dans la plupart du temps. En tout cas, les nôtres, Maltobar, Irvois, non. Ni pasteurisées. Donc, elles sont ce qu'on appelle une bière vivante. Il y a encore de la levure dedans. Et même au-delà de là, n'importe quelle bière, en fait, la bière, c'est pas comme le vin, à part des bières spéciales. C'est pas un produit de garde, donc de manière générale, une bière doit se boire assez rapidement et conserver au froid autant que possible. Donc on a une salle climatisée un peu pour l'été, on la laisse au maximum à 20-22 degrés. Mais idéalement, si on pouvait les garder à 4 degrés, ça serait mieux. Donc en gros, la bière, pour les gens à la maison aussi, s'il y a des gens qui achètent plein de bières pour boire au long de l'année, il vaut mieux qu'ils puissent la mettre dans un endroit frais, voire dans le frigo si possible.
Mmh. Et droite.
Et debout, oui.
Et oui, pour que du coup le dépôt tombe.
Voilà, comment elles ne sont pas filtrées, il y a quand même un petit dépôt au fond. Et il vaut mieux le laisser debout, à part si on veut vraiment goûter le dépôt. Il y a des gens qui aiment bien aussi le dépôt, mmh. C'est le goût de chacun.
Au final, c'est un peu comme le spectacle vivant. Moi, je suis régisseur de métier et je sais que tous les spectacles sont différents. Quand un spectacle est joué, on a tous les soirs une version du spectacle différente. Et là, en plus, c'est un peu pareil pour la bière artisanale. J'ai l'impression que chaque bouteille peut être différente, peut avoir un petit goût un peu différent. Et du coup, on a quand même le dépôt au fond qui fait qu'on ne consomme pas une bière artisanale de la même manière qu'une bière industrielle.
Oui, éventuellement, quand on embouteille, par exemple, à partir d'une grande cuve, on a des fermenteurs 2000 litres, pour le coup, il peut y avoir des moments, où, par exemple, au début de l'embouteillage, où il y aura un peu plus de levure qu'à la fin. Ça dépend de la position, du niveau de la bière dans le fermenteur. Donc, effectivement, il peut y avoir des bouteilles où il n'y aura presque pas de dépôt, et certaines, il y aura un peu plus. Mais tant qu'on les garde debout et qu'on le sert en faisant gaffe pour ne pas trop mettre le dépôt, il n'y aura pas forcément trop de différence de goût.
Et puis on y gagne sur tous les aspects gustatifs, donc c'est vraiment super. Je vous propose de faire une première pause musicale. Je vais introduire le groupe Los Narvalos, qui sont des amis à moi, qui nous proposent une petite musique. Pour information, ils font des petites sessions sur Facebook Live, où ils des fois jouent entre eux en invitant des personnes pour pouvoir faire de la musique à trois. Ils ont fait notamment une série pendant le confinement qui était très suivie et très appréciée. On va pouvoir lancer cette petite pause musicale et on se retrouve juste après.
Thank you.
de retour dans le studio de Radio Campus Grenoble 90.8. Nous sommes toujours en compagnie de la brasserie Irvois et de la brasserie Maltobar. Donc on continue notre apérophonie sur la bière artisanale et locale. Et sur cette nouvelle partie, on va plus se centrer sur ces humains humanoïdes qui sont dans le studio et qui brassent de la bière. Moi, je suis assez intéressé pour savoir d'où vient un peu cette passion pour la bière, parce qu'avant de vous lancer professionnellement dans le brassage de bière, j'imagine que vous avez été tout simplement consommateur. Donc à quel moment vous vous êtes dit la bière, c'est vraiment quelque chose qui me plaît et j'ai envie peut-être de me lancer à titre professionnel là-dedans. C'est quelque chose qui est plus important que le reste dans ma vie. Est-ce que vous pouvez en parler, par exemple, Sergio?
Bah, je sais en tout cas. Je crois savoir que pour trois de parmi nous, c'était pendant la thèse. Donc moi, Quentin et Benoît, on était tous en thèse à peu près au même moment, à peu près au même endroit. Mais on ne se connaissait pas. Mais je pense qu'on a tous eu ce clic dans la tête de se dire qu'est-ce que je fais ici et pourquoi je fais pas de la bière. En gros, résumé, c'est ça. Suzy, elle bossait un peu dans le social, un peu à droite à gauche, si je peux le dire. Bon, je laisse.
Et avant ça, j'habitais à Bruxelles, donc j'ai quand même bien forgé mon palais là-bas. Et voilà. Et puis après, c'est pareil, j'étais quand même un peu dans une désolation de travail qui fait bien partie de notre génération, je crois. Et du coup, on s'est dit, oh là là, ça serait super si on faisait notre truc. Et puis, on a commencé, nous, par faire des champignons. Faire des champignons comestibles. Ouais.
On précise quand même.
Ouais. Et puis en fait, être champignonnière, moi, ça me disait pas trop. Mm-hmm. Faire des marchés à 5h du matin et tout ça, ça me paraissait un peu compliqué. Et la bière est apparue et puis voilà, ça s'est fait petit à petit. C'était pas... Comment ?
Ça s'est fait un peu tout seul. Je sais même pas pourquoi en vrai on a décidé de faire la bière. Mm-hmm. Je pense que c'est parce que c'est quelque chose de faire soi-même à la maison, c'est assez facile. Et on s'est tous dit, je pense, ah tiens, si j'arrive à faire la maison, pourquoi pas faire en plus grand et vivre de ça. Et je pense que, vu le nombre de brasseries qu'il y a en France en ce moment, je pense qu'on s'est tous dit à peu près la même chose.
Mmh. Ah ouais, le côté un peu de faire soi-même son propre produit et puis voilà. Peut-être être à son compte. Je ne sais pas si vous, Maltobar, c'est un peu la même approche. Est-ce que c'est le fait de pouvoir... créer un peu la sauce au travail, être à l'origine de ce qu'on produit, c'était un aspect important pour vous ou pareil, c'est le côté un peu la fin de soirée entre potes où on se dit mais les gars, faut trop qu'on ouvre un bar ou qu'on crée des bières nous-mêmes, c'est trop ce qu'on kiffe.
Bah, c'est un peu
il
des
était
deux.
Là.
Putain, c'est incroyable.
C'est un peu des deux, ouais, ouais. Bah, pour le coup, l'origine du nom Maltobar est incertaine. C'est une soirée avec un lendemain de soirée dont on se souvient pas, avec un papier sur lequel écrit Maltobar, entouré plein de fois.
Tatoué voilà. Sur le front après.
À consommer avec modération. mais ouais, du coup, avec Benoît, nous, c'était pendant la thèse. Un jour, Benoît qui débarque dans mon bureau en me disant bah, « Regarde, on peut faire de la bière à la maison. Il y a le matos, j'ai fait une liste sur Internet. » Je lui dis « Bah, si tu veux. » Bon, Benoît, il habitait au 4e étage sans ascenseur. Et moi, j'habitais au rez-de-chaussée. Je lui dis bah, « On peut faire ça chez moi. » Le lendemain... le matos était commandé, une semaine après, on brassait la bière. Et du coup, voilà, en bière de salon, quoi, pour nous. Et puis, je pense qu'on a eu la chance que la première bière qu'on fabrique soit bonne. Alors que, parce que je pense que c'est facile de se décourager, mine de rien, le process, ça prend quand même un peu de temps. Déjà, ça te prend une journée à brasser, à peu près, quoi. Ça te prend un mois à attendre. Et là, la bière sort et elle est trop bonne, quoi. Mmh. Du coup, ça nous a un peu verrouillé là-dedans. Je pense voilà, que bah, un peu ce que disait Sergio, quoi. Mais c'est depuis un moment, on se posait un peu des questions sur ce qu'on faisait là. Donc voilà, la conjonction des deux, de la bière, on en buvait plein. C'est le terreau était fertile pour l'apparition d'une brasserie.
Ouais. Ouais, je comprends complètement. J'imagine que quand tu te lances là-dedans, du coup, tu as pas mal de questionnements. Tu débarques un peu, faut apprendre un peu les choses. Est-ce qu'il y a une personne ou j'en sais rien, une brasserie, quelque chose qui vous a initié à ça ou en tout cas qui a eu une influence forte sur vos débuts. Je ne sais pas si, par exemple Sergio, il y a eu une influence particulière qui a fait que ça t'a porté au début ou qui a pu permettre l'initiation à la bière, en tout cas à ce métier-là.
Indirectement, plutôt. Moi, j'ai connu Suzy, elle habitait à Bruxelles, comme elle a dit tout à l'heure. Donc, on était pas mal influencés au début par les bières belges. Et surtout par les levures, en fait. La caractéristique principale de la bière belge, c'est la levure. C'est une levure très particulière. Et en gros, c'est ça qui m'a plutôt inspiré, le fait d'utiliser différentes levures et tester différentes levures. Enfin, vraiment travailler sur toute la levure avant le reste de la bière. Mais
on a gardé d'ailleurs cet aspect, enfin, continuer à vraiment travailler les levures pour chaque bière.
Alors c'est vrai que c'est un aspect qui est hyper important chez vous. On sent dans toutes les bières proposées qu'il y a vraiment une inspiration internationale, puisque vous allez chercher presque le meilleur de ce qui se fait à l'étranger pour le ramener ici et à développer des bières très différentes. Moi, j'ai noté notamment que vous aviez, par exemple, une APA que moi j'aime beaucoup, qui est d'inspiration anglaise, une blonde qui est d'inspiration du coup plutôt belge. La Gandaya, je crois qu'il est plus d'inspiration brésilienne, si je ne me trompe pas. Et puis,
ça, c'est du marketing.
Ah, d'accord.
Non, en vrai, l'APA, c'est plutôt américaine.
D'accord.
C'est pour ça, APA, c'est American Pale Ale.
D'accord.
Et effectivement, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a le côté levure. Et après, il y a le côté aussi style de bière de différents pays. À la base, traditionnellement, il existe quelques pays de tradition brassicole. Et en effet, nous, on a plutôt, c'est exactement ça ce que tu as dit, on a voulu ramener à Grenoble, on va dire, produire à Grenoble des bières que nous, on aimait de différents pays. Et surtout en bio, on trouvait qu'il manquait justement ces styles de bières qu'on aimait tant, il manquait en bio et il manquait plus local. Donc ça qu'on s'est dit, on va essayer de chercher nos styles de bières préférés. Et on va le faire nous-mêmes à Grenoble. Voilà.
Est-ce qu'on peut dire un peu que vous faites voyager les amateurs de bière avec vos produits ? Il y a un peu de ça.
C'est un peu l'idée, ouais. C'est un peu le...
Il suffit de regarder les noms déjà de leur bière. Hein.
Bah ouais, non,
mais... Aourek, enfin que des trucs que tu n'arrives pas à prononcer.
Ouais.
Ouais.
Mais c'est vrai que c'est dans une période où on est un peu obligé de rester en France, où on ne peut pas pouvoir aller très loin, et bah de pouvoir tester des recettes qui sont inspirées en tout cas de voilà. D'autres pays brassicoles, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Ouais. Est-ce que côté Maltobar, il y a aussi des valeurs particulières qui portent un peu vos différents produits ou pas particulièrement? Bah, moi, on a parlé déjà un peu de l'aspect humoristique tout à l'heure, mais j'ai remarqué aussi qu'il y avait quand même pas mal de références aux rencontres, à la musique, à la fête, puisque par exemple j'ai vu sur votre page Facebook, il me semble que pour votre programme de livraison d'hiver, vous aviez parlé de Bamboche Not Dead, donc on sent qu'il y a une envie un peu de partager ce produit-là avec d'autres gens, et le côté fête est quand même présent chez vous, non?
Oui, on avait lancé le Make the Bamboche Great Again pour les livraisons de bière et que les bars soient fermés, refaire ça à la maison. Dans le projet initial de Maltobar, il y avait quand même cette envie d'avoir un lieu quoi, de rencontre, de musique, de culture et de bière. Ce qui va arriver bientôt quand on aura le droit, parce que là, on est en train de bosser sur l'ouverture d'un nouveau lieu qui va s'appeler le Commun des Mortels dans le quartier Saint-Bruno. Et qui du coup proposera de venir boire de la bière artisanale. Donc il y aura sans doute des bières d'Irvois, des bières de tout un tas de brasseries locales.
On note, on va
on
noter.
On parle tarif après.
Donc, t'inquiète pas, on a noté aussi. Et du coup, et il y aura aussi des ateliers de brassage pour permettre un peu à tout un chacun de venir découvrir l'art de brasser sa propre bière et puis de mettre à disposition du matériel pour venir le faire quand on veut dans des bonnes conditions.
Alors ça c'est hyper intéressant, d'où ça vous vient ce côté un peu, l'envie de transmettre, le fait que les gens, parce qu'il y a un côté aussi un peu, j'allais dire, pour dire un mot un peu à la mode, do it yourself, le fait que les gens puissent aussi faire leur propre bière, est-ce que c'est, d'où ça vous vient ce côté un peu, on veut que les gens puissent expérimenter le brassage de bière et puissent faire eux-mêmes leur bière, puissent apprendre à faire de la bière eux-mêmes? C'est quelque chose qui vous tient à cœur depuis un moment.
Depuis le début, on va dire, ça a fait un petit peu partie, alors le mot est un peu gros, mais nos valeurs à la base en fait... Ce qui nous déplaisait un peu dans la thèse, enfin surtout, là je parle peut-être plus pour moi, c'est ce côté un peu de concret, donc toucher quelque chose, de le transformer et d'en faire quelque chose qui donne, on va dire, qui donne du sourire, qui permet d'être partagé, de rassembler plusieurs personnes. D'ailleurs, on remarque que quand on commence à brasser chez soi de la bière, on a son nombre de potes qui augmente.
Donc ça, c'est...
Et on est obligé d'augmenter la production, c'est peut-être pour ça qu'on passe le cap à un moment de créer une boîte. Mais au moment où on a attaqué Malto et qu'on a pu brasser dans notre local, on a eu directement l'idée de proposer des ateliers. Alors à la base, c'était un peu fait à l'arrache parce qu'on n'avait pas encore trop cadré la chose. On s'est dit déjà, est-ce que ça va intéresser des gens ? Qu'est-ce qu'on peut y faire ? Donc c'était quoi ? C'était juillet ou août 2016, quoi. C'était vraiment tôt. Et en fait, on a lancé ça, des gens sont venus pour tester, et eux, comme nous, ça nous a plu. Ils ont fait venir un autre groupe de potes, et en fait, maintenant, on avait régulièrement dans notre le microbrasserie en fait, des ateliers. Et le fait de partager ça avec des gens, en fait, plus tu fais, plus tu as envie de le faire. Parce que en plus, ils te donnent des idées de recettes. Enfin, ça partage, c'est une grosse émulsion d'esprit. Des gens apprennent, veulent se lancer. Donc, alors pour ceux qui disent « mais vous créez de la concurrence », c'est faux, on met juste des gens qui mettent un premier pas dans la bière artisanale et qui ne reviendront jamais sur l'industriel. Et ça, je trouve que c'est alors une bonne chose. Après, tout est porté à débat, mais je trouve que c'est une bonne chose. Et de ce partage-là, les gens reviennent. C'est, même s'ils ne viennent pas acheter des bières, quoi, mais on vient discuter et en fait, on crée une sorte de communauté. Mmh. Et j'avoue que ces temps-ci, j'aime bien ce côté un peu créer une communauté, on va dire, d'une base, sans avoir trop de règles et de choses bien méchantes. Et on n'est pas obligé de parler uniquement bière et mauvaises choses. Et du coup, ça permet de se divertir. Les ateliers, franchement, c'est une chose qui un point d'ancrage pour partir plus loin.
Ouais, au final, ouais. J'ai l'impression que, bon, un peu comme dans plein d'autres domaines, mais le partage fait que tout le monde apprend et tout le monde, même vous, j'imagine, des fois quand vous rencontrez d'autres brasseurs ou même des gens des fois amateurs, on peut avoir des idées qui viennent de toutes parts. Et plutôt que de la concurrence, c'est plutôt, on va dire, ça nourrit un peu le groupe en général. Donc c'est une super initiative.
C'est, le milieu de la bière artisanale, ça se rapproche quand même plus d'une confrérie que d'une piscine à requins, quoi. Ben juste pour les chiffres, c'est bien de savoir que la bière artisanale en France, ça représente, je crois, autour de 7%, enfin moins de 10% des parts de marché de la bière qui est consommée en France. Ça représente 80% de la main-d'œuvre, par contre. Donc voilà, c'est important de savoir qu'on ne se tire pas forcément la bourre entre nous, quoi. Là où il faut prendre des parts, c'est sur l'industrie. Et ça va passer par l'entraide, par la communication, et par la formation, entre guillemets, enfin, c'est un grand mot, mais des gens voilà, les veillent un peu à ces nouveaux produits. Puis là, il y a vraiment une tendance de fond, quoi, sur un peu l'alimentation en général, de relocaliser, d'essayer de connaître les producteurs. Voilà, si tu es en mesure de connaître le producteur du produit que tu consommes, c'est vraiment le must, quoi. C'est que tu es sûr que tu garantis un emploi, tu garantis la qualité, etc.
Ça me permet de rebondir effectivement sur ce côté un peu bio, local, peut-être plus, on a les mots aussi de responsables qui peuvent en ce moment, avec l'envie de consommer des choses qui sont, on va dire, plus éthiques. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est aussi très présent chez Irvoix. On sent une envie de proposer un produit voilà, avec votre gamme entièrement bio. Pareil, d'où ça vient ? Ça, c'est un peu en opposition avec justement ce qui peut te faire industriel, avec peut-être des fois des... une consommation de produits, même en dehors de la bière, qui fait plusieurs fois le tour du monde et des valeurs un peu écologiques, ça fait partie de ce que vous portez ?
Ouais, ça part surtout de nos valeurs personnelles. Nous, pour moi et Suzy, ça n'a jamais été une question, est-ce qu'on fait du bio ou pas ? Déjà, on consomme pas 100% bio, mais quand même presque que du bio, autant que possible. Pas mal de trucs locaux aussi, on a un ami maraîcher... Et donc, pour nous, ça n'a jamais été une question. Enfin, ça peut paraître bizarre de dire ça, mais je ne comprends même pas comment quelqu'un puisse avoir envie aujourd'hui, enfin, quelqu'un comme nous, puisse avoir envie de faire quelque chose qui n'est pas du bio. Pour moi, ça me dépasse, en fait. Donc, pour moi, ça va de soi, en fait. Même, comme dirait Suzy, quand on parle même de label, ce qu'il faut qu'on paye pour avoir un label. Et la théorie de Suzy, c'est que les gens qui ne font pas du bio devraient payer pour avoir un label plutôt que l'inverse. Je trouve que c'est l'air du temps. Enfin, pour moi, c'est logique. Je ne peux même pas expliquer pourquoi, parce que pour moi, ça va de soi.
Ouais, je comprends. C'est vrai que ce côté un peu engagement et l'envie aussi de porter des valeurs et puis quelque chose qui s'oppose au circuit industriel, c'est très présent. Mais notamment aussi, j'ai pu voir chez Maltobar qu'il y avait ce côté un peu engagement presque aussi... j'allais dire militant dans certains aspects. Enfin, par exemple, je sais qu'il y a des bières que vous proposez qui ont des noms à connotation un peu militante, on va dire. Par exemple, je pense à la Lacrymale, la radicale ou la 68 hard, je ne sais pas si on dit 68 hard ou...
Non, la 68 hard.
68 hard, bien sûr. Et du coup, c'est quand même aussi quelque chose qui a l'air de vous intéresser et on sent des valeurs presque militantes. Il y a un peu de ça aussi chez vous ?
Oui, carrément. Ce dont on parlait avant vis-à-vis de l'industrie, c'est exactement ça. Quoi. On essaye de défendre des valeurs de partage, de solidarité, d'entraide. Donc ça se voit dans la manière dont on mène notre entreprise, ça, c'est parce que c'est des valeurs qui nous suivent dans notre vie par ailleurs. Quoi. Et du coup, le commun des mortels, c'était un peu l'aboutissement de ce truc-là. Quoi. C'est d'avoir un lieu de mutualisation où les gens peuvent se rencontrer et essayer de donner un lieu supplémentaire d'émulsion, de création, de solidarité.
C'est super. Alors, maintenant qu'on a abordé tous ces sujets, on va revenir dans la dernière partie justement sur comment nos auditeurs et auditrices peuvent accéder à toutes ces bières artisanales, comment ils peuvent s'initier au fait de déguster de la bière et puis aussi embrasser. Donc on va revenir plus amplement sur la dernière partie sur justement le commun des mortels, qui est votre projet à Maltoba. Mais en attendant, on va faire une petite pause musicale avec un groupe que je crois que c'est vous qui l'avez suggéré. Est-ce que peut-être quelqu'un de vous peut en parler, puisque c'est une musique que vous avez proposée ?
Du coup, les Coureurs de Rempart, avec leur dernier son, La Meute, qui est sorti très récemment, un groupe grenoblois militant et engagé aussi.
Très bien. Et du coup, on écoute tout de suite ça sur Radio Campus 90.8.
Malaise, racaille des utopies où la courbure de l'échine est un réflexe pour la survie laissant la rage au casier, délaissant le phrasé, une voix n'est plus un cri, mais un bulletin de papier. Ici où depuis tout petit, entre le code barre et le code civil, on a une vie rasoir au lieu d'en marcher sur le fil. Vie heureux, porte-toi bien dans ton rôle. Primo taf avale les ordres, c'est le salaire qui nous console. Ici, se battre à la clé de sol est perdu d'avance. On claque une clé de bras pour mettre au sol la bien-pensance. Car si personne n'obéit, personne ne commande. Si personne ne subit, personne ne quémande. C'était notre chair à des canons, mais t'es pas dans nos rêves de gosse. Le bruit des potes persiste, attise l'éclat de nos molotovs. Y aura toujours dans les parages la lueur rouge et noire. Un coup de nerf, un cri de guerre, l'écho du pavé de la nare. Ouais, les animaux sauvages, rascal rapace. Que les prédateurs salivent, que les charognards salivent, que se retrouvent sous les babines, que s'aiguisent les canines. Les sirènes s'accordent, politique aux citernes. Y'a sûr qu'on grogne comme un tiers d'or, rime avec violence quotidienne. Plus t'actives les flics, plus t'attises la mort. T'étonnes pas que tu traites comme un animal noir. La nature reprend ses droits, ses éléments déchaînés. Aucun vent de débat ne pourra les freiner. Députés de la banlieue, montés en haut lieu, les députés nous trouvent odieux. Pas tant mieux. Pas de droit, pas de devoir. À partir de ce soir, ni loi, ni ordre à recevoir. Un bourgeois crie parce qu'on brûle sa cave. La meute grossit et puis hurle. Tu t'affoles rentier, tu désespères. Alors t'as provoqué des guerres sur le globe entier. Faut pas que je les laisse faire, non, parce qu'il faut changer. La violence est plus que jamais un mal nécessaire. On est animaux sauvages, rascal rapace. Que les prédateurs salivent, que les charognards salivent, que se retroussent les babines et que s'aiguisent les canines.
Dans les souterrains, ça frémit, ça trépide. À l'orée des sous-bois, c'est fiévreux, ça trépigne. Informe, infâme, fait la revanche du bétail. C'est lance des terres, il fait sabot dans la bataille. Charge au Fenwick, ça tremble dans leur rang. Nos militants, le cassette, c'est tellement de talent. Pata gratuite pour les condescendants. Et cynique, tu vas voir, tu sais les descendants. Hurlement à la lune, réveille les sombres ordres. Ressuscite les meutes, les fronts de du désordre. Bestiaux des terres qui refusent la boucherie, qui ont fait cramer l'abattoir. Les écarissants aussi, un ultime cataclysme. Une charge chaotique dans un élan cathartique. Ça chope la carotide, c'est l'heure de la rapine. Les affamés fulminent, on bouffera les riches du combat, c'est la famine.
Dans les animaux sauvages, rascal rapace. Que les prédateurs s'animent, que les charognards s'animent. Que se retroussent les babines et que s'aiguisent les canines.
Animal de la côte.
cause, mais dans babine sale, pas dans la fiente, la fourrure irisée, la crête, le croc cherche la main du maître. On a la mort sur tragique, rongé par les taxes et les tics, ouais, on a le venin, la sève, le bec acculé qui crève. On a explosé l'enclos et déposé les licoles. On marche en meute dans la nuit noire, brûlant des bouteilles d'alcool. On a de l'histoire à commettre, on vient dire merde à nos maîtres. On votera plus pour quoi que ce soit, on a que la guerre à promettre.
Rapace, blaireau, carcasse, frérot, saras, charcot, badass et badon. Ça casse, ça crie, ça brille, ça brille, ça brise, ça ville,
solo en famille.
Les bourgeois flippent des moutons noirs que la violence galvanise. Leur tour de bâton en miroir quand les devantures se brisent. À la cave un slogan, pas une thèse, mais faut avouer qu'en temps de crise, ça cause aux gens son parenthèse quand la terre gueule.
Les animaux sauvages, rascal rapace,
rascal.
Que les prédateurs s'animent, que les charognards s'alignent, que se retroussent les babines, que s'aiguisent les canines. Ouais, mes animaux sauvages, rascal rapace,
rascal.
Que les prédateurs s'animent, que les charognards s'alignent, que se retroussent les babines, que s'aiguisent les canines.
Révolution.
De retour du coup dans le studio de Radio Campus 90.8, effectivement, une chanson assez engagée, ça fait du bien dans ces temps où l'engagement est important, y compris pour nos brasseurs présents. Donc je rappelle la brasserie Maltobar et Hiervois qui sont avec nous, je ne parle plus français, ça y est. En tout cas, on est content de vous accueillir, et après avoir détaillé un peu comment on faisait de la bière et qu'on a appris à vous connaître un peu plus, on va expliquer un peu à nos auditeurs et auditrices comment ils peuvent un peu à la fois trouver ces superbes bières et également peut-être s'initier à la bière. Donc j'aimerais peut-être pour commencer qu'on voit un peu, on sait qu'en ce moment c'est une période triste puisque tous les bars sont fermés, on espère que bientôt ils vont pouvoir réouvrir. Où est-ce qu'on peut se procurer vos bières du coup? Je ne sais pas si vous voulez commencer, Sergio ou Suzy.
Alors pour la brasserie Hiervois, venez chez nous. C'est ce qu'il y a de mieux pour tout le monde en fait. Si vous achetez de la bière à la brasserie Hiervois, vous payez moins cher qu'au commerce et nous on gagne plus d'argent. Donc c'est win-win, c'est que du bénéfice.
La stratégie et, win-win.
Et d'ailleurs, j'ai profité pour remercier les gens qui sont venus acheter ces derniers temps chez nous. Ça a pas mal augmenté les derniers temps les ventes directes. Et en gros, c'est grâce à ça qu'on tient pendant le Covid, en fait, parce que on vend beaucoup moins de bière. Normalement, on vend presque autour de 60% en fût, notre production. Et là, on est à zéro fût, ce qui est un peu catastrophique quand même. Mais grâce aux gens qui viennent acheter chez nous, ça nous permet d'équilibrer, comme on fait plus de bénéfices à la vente directe, ça nous permet de tenir et de rester en vie, quoi. Donc, merci aux gens qui sont venus et aux gens intéressés. C'est au 14 rue Claude Jeannin. De toute façon, il y a sur Internet, en Google. Et on demande juste de passer un petit coup de fil avant. Il y a le téléphone sur Internet. Il y aura Suzy qui va vous répondre très gentiment et pour vous donner rendez-vous. Voilà.
C'est super. J'imagine que c'est pareil pour vous, Maltobar. On peut venir directement chez vous. Je crois qu'il y a des livraisons à vélo qui existent, en tout cas sur sur Grenoble et la métropole. Comment ça se passe pour vous, Maltobar? Où est-ce qu'on peut trouver vos biens? Est-ce qu'on doit venir chez vous aussi?
Oui. Comme pour Hiervois, vous pouvez venir à la brasserie. Nous, c'est les permanences, ça va être les mercredis, vendredis et samedi après-midi, on va dire 13h, 18h. 19h quand on aura le droit, puis peut-être un peu plus.
Jean Castex.
Mercredi, vendredi, samedi après-midi. Vous pouvez nous trouver sur les marchés Hoche le samedi matin, Ilverte le dimanche matin. Après, nos bouteilles, elles sont en vente aussi à d'autres endroits, notamment à l'Éléphant et à Épisol, l'épicerie solidaire à Capuche, où elles sont moins chères que chez nous, c'est vous dire. Sinon, on avait lancé ce petit truc de livraison. Ça n'avait pas super bien marché pour le coup, mec bamboche Great Again. Mais pourquoi pas. Après, a priori, on va avoir le droit de rouvrir bientôt. Mais par contre, on peut livrer pour des grosses commandes ou pour les professionnels, etc. On livre en vélo.
Okay.
Dans le Grenoble, la métropole, c'est...
Oui, ça va un peu loin, c'est vrai.
Ça va un peu loin. On n'a pas encore les chevilles pour. On a prévu les vaccins de dopage, mais ils ne sont pas encore là, quoi. Donc...
D'accord.
Et bientôt, comme un des mortels.
D'accord.
Mais pour les horaires, il faut attendre qu'on soit mis d'accord.
ouais, j'imagine. Alors, ça me permet aussi de rebondir sur le fait qu'il y a peut-être des gens qui veulent apprendre à déguster un peu de la bière. Alors, je ne sais pas si vous faites ça ou si vous connaissez des endroits où on peut apprendre à déguster de la bière, parce que là on est quand même sur des produits de qualité et au-delà de juste une bière rafraîchissante, on peut découvrir tous les arômes de la bière et puis il y a quand même plein de choses à découvrir, j'imagine, comme pour le vin, la sensation visuelle, olfactive, gustative, plein de choses hyper intéressantes que vous développez. Est-ce que vous savez un peu, vous avez des endroits à recommander ou des manières de s'initier à la dégustation de bière?
Bah, Grenoble, en fait, et on a oublié d'en parler un petit peu tout à l'heure, et donc mea culpa à tous les gens de Just Beer. En fait, à la base, on traînait pas mal par là-bas, parce que justement, si tu veux apprendre à déguster, à mettre un premier pas dans la bière artisanale sans avoir, on va dire, un produit, quoi, en disant ça c'est ma brasserie, c'est mon truc, là c'est beaucoup plus généraliste. Avec, donc quand alors je sais plus s'il y a encore, mais il y avait Emmanuel Gillard, donc, qui est un grand zytologue, œnologue, mais du côté de la bière. Et qui à la base donc nous avait donné 2-3 conseils. C'est un peu là-dessus qu'on a fait. On est parti après nous. On est parti de notre côté. On n'est pas tout totalement resté à Just Beer. Mais voilà, c'est franchement pour les gens qui cherchent et qui veulent mettre un premier pas, apprendre avec quelqu'un qui vous dit sur celle-ci vous pouvez sentir ça, retrouver ça. Celle-ci, il y a ça. Enfin, c'est voilà. Moi, je suis trop mauvais là-dessus, mais niveau dégustation, ils ont des bons conseils techniques à donner. C'est un bon endroit où aller. C'est un lieu un petit peu alternatif, donc ça me plaît quand même pas mal. Et à partir de là, ensuite, les gens auront le moyen d'aller dans leurs endroits et de faire déjà avoir un esprit critique déjà ouvert. Donc okay. Ça, c'est cool. Et puis, je ne vais pas faire trop de pub, mais après, il y aura le commun des mortels où j'espère qu'on pourra organiser ce genre d'événement aussi.
Super, bon, on va en parler tout de suite. En tout cas, déjà, merci de nous avoir donné le nom de zytologue qui nous permettra maintenant de briller en soirée.
Et puis au Scrabble, ça fait des points.
C'est le dernier mot du dictionnaire.
C'est vrai.
Si c'était dans le dictionnaire.
et du coup, parlez-nous maintenant. On trépigne, on veut en savoir plus. Qu'est-ce que c'est que ce projet Le Commun des Mortels? Ça a l'air hyper intéressant, hyper enrichissant. Là, on est plus, je crois, sur carrément, non pas juste s'initier à déguster de la bière, mais carrément la brasser nous-mêmes.
Ouais, du coup, le Commun des Mortels, c'est un projet qui est né sur papier, en tout cas, il y a un long moment. C'était pendant un marché de Noël, je crois. Il y a eu un appel à projet pour aménager un local, quoi. Donc, qu'on n'a pas eu, pour le coup. Mais on avait monté un projet à mettre dedans et on était un peu déçus de ne pas le mener à bien. Le Commun des Mortels, ce sera donc d'abord un bar où on pourra goûter pas mal de bières artisanales et locales. Puis potentiellement y croiser les brasseurs quand le cœur leur dira.
Donc oui.
Je crois qu'il y a déjà la brasserie Roi qui sera là.
Et du coup, sans doute avec un volet un peu dégustation, peut-être, de parler un peu. Mais ouais, le focus à fond sur le brassage amateur, apprendre à brasser sa propre bière. Donc on a monté six unités de brassage d'échelle modeste, on va dire. Enfin, comme on brasserait à la maison, mais encadré. Et du coup, on pourra venir à partir du 15 mai brasser sa propre bière, encadré par nous. Donc, on donne toutes les astuces puis sur l'histoire, la chimie. Après, ça part un peu en fonction de ce que les gens demandent. Mais à la fin, on a brassé de la bière. Un mois plus tard, on peut revenir la mettre en bouteille et repartir avec sa production. Et à partir de là, on a le permis de brasser tamponné et on peut revenir quand on veut, moyennant les créneaux disponibles, pour brasser sur ce matériel en autonomie. Donc après, il y a toujours quelqu'un s'il y a un problème technique ou une interrogation sur combien de kilos de framboises dois-je mettre dans mes 20 litres de bière. Mais on peut revenir brasser quand on veut et laisser fermenter sa bière. Et point quand même important, qui a entre guillemets rien à voir avec la bière, mais c'est qu'il y aura aussi un atelier de transformation alimentaire qui fonctionnera exactement sur le même principe, avec pâtes, confitures, déshydratation,
pain,
etc. Quoi. Pas mal de petits équipements, de gros équipements en fait, qu'on ne peut pas avoir chez soi, comme les brasseries.
Et puis comme ça permet aux gens qui veulent découvrir cet aspect-là de le faire dans les bonnes conditions et puis d'avoir un peu plus de moyens que peut-être que Suzy qui a commencé dans une baignoire au début. Donc c'est super, c'est génial que ça puisse exister. Pour finir cette émission, je vous propose peut-être de vous recommander, j'en sais rien, un brasseur ou une bière d'une autre brasserie que la vôtre, vu qu'il y a beaucoup d'acteurs sur la région. Est-ce qu'on va faire peut-être un petit tour de table en commençant peut-être par Suzy? Est-ce que tu peux nous recommander, une bière ou un brasseur, ça peut être aussi quelque chose qui a un petit peu, qui a un lien avec la bière, mais qui est un petit peu plus éloigné. Donc n'hésite pas à nous dire ce que quelque chose qu'on.
Je vous avouerai que j'ai pas bu depuis quelques temps vu mon état, mais.
On précise que Suzy est enceinte.
Ouais, vaut mieux.
Mais. Qu'est-ce que j'aurais envie de boire là tout de suite ? Je sais qu'il y a un petit salon du vin naturel. J'en profite d'ailleurs pour le lancer le week-end prochain, je crois, le samedi 8, à Saint-Égrève. Et pour le coup, le vin naturel, ça c'est, enfin, c'est pareil dans les autres boissons comme ça. C'est vraiment des choses que les dernières années, quand j'en avais un peu marre de boire de la bière, eh ben, vers quoi je me tournais. Ça vaut vraiment le coup, c'est super intéressant d'aller voir ce qu'ils font. Voilà, c'est ça que je recommanderais.
Ok. Sergio, est-ce que tu as une bière, un brasseur ou autre chose à nous recommander ?
Déjà, je recommande l'eau commun des mortels, qui va vraiment
bien. Évidemment.
Tu seras payé à la fin.
Gagner des points, voilà. Non, en vrai, je reparle de ça parce que c'est quand même, ça fait longtemps qu'on attend, qu'on connaît Malte Bar, on est amis depuis longtemps. Et je trouve que ça va être vraiment chouette de voir ce lieu. Où on peut aller boire, jouer de baby-foot peut-être, et s'amuser. Sinon, au niveau bière, il y a une bière que j'aime bien, que j'ai connu le brasseur quand on faisait des salons dans la région, c'est la Montagnarde. Après, il fait plutôt des bières très spéciales, on va dire. C'est des bières surtout acides, c'est des bières sauvages, entre guillemets, où il y a des bactéries, donc elles ont acidité bien prononcée. Donc voilà, la Montagnarde, Christophe, voilà.
Ok.
Qui est en Savoie.
On n'a plus beaucoup de temps, mais Quentin, est-ce que tu as quelque chose à nous recommander ?
Toutes les brasseries qui sont petites et qui vous paraissent à découvrir, les brewpubs de la région grenobloise, le Petit Labo, le Docteur D, brasseries des faux semblables, il y a...
Bière du Temps, Arave, Aber, Arave qu'on essaiera d'avoir au Commun des Mortels, parce que c'est difficile de le trouver, et du coup si on peut l'avoir à la pression, donc c'est un petit message... contacte-nous. Non, c'est bon, c'est déjà fait. Mais ouais, histoire de faire découvrir aux gens, j'ai pas de nom spécial. Petit Labo, Docteur D, tout ça. Enfin, il y a plein de pépites de partout et on trouvera toujours bière à son pied.
Faites confiance aux nouvelles brasseries aussi, ils ont besoin de ça. Donc,
complètement.
Les gens qui ouvrent, buvez leur bière, trouvez les bonnes, faites-leur des retours.
Et puis, il y aura des échecs, mais ça réussira.
N'essayez pas à tester, c'est aussi en essayant des choses qu'on découvre ce qui est à son goût et tous les goûts sont différents. Donc n'hésitez pas à acheter des bières artisanales, on en trouve beaucoup dans les commerces. D'ailleurs, je refais un petit coucou à Dophy Bière qui nous a accompagnés et qui s'occupe de distribuer des bières artisanales et locales dans plusieurs magasins de la région. N'hésitez pas à aller les contacter si vous êtes un professionnel ou que vous avez un magasin ou un lieu pour diffuser toutes ces bonnes bières. Merci beaucoup à vous d'avoir participé à cette émission. On est très content de vous avoir accueilli. Merci aussi à Radio Campus Grenoble de m'avoir permis de faire cette émission. Et je laisse la parole avec un petit message de nos amis de Radio Campus Grenoble 90.8 avec, bien sûr, la consommation avec modération. Au revoir à tous.
L'alcool, faut pas en boire trop.
Oh non,
l'alcool
à consommer avec modération.
Modération.
L'alcool, faut pas en boire trop. Oh oh.
Oh 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 oh.
L'alcool, c'est mauvais pour la santé.
Et ta santé, c'est important,
car on n'en a qu'une seule.
L'alcool.
Et c'était quoi ?
L'apérophonie !
Ouais, mais c'était quoi ?
L'apérophonie !
C'est quoi ?
L'apérophonie !
Quoi ?
Sur Campus Grenoble !
Sur quoi ?
Sur le 90.8.
Ah, sur Campus Grenoble 90.8.
Oui.